Bonjour Emmanuel Macron.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct de Strasbourg. Vous serez tout à l'heure avec les auditeurs. Vous aurez l'occasion de revenir en détail sur vos propositions parce que c'est vrai que pour la première fois hier, vous avez esquissé des propositions. Et on a envie de vous dire... Enfin, vous voulez nous montrer qu'En Marche n'est pas une coquille vide, enfin, que vous n'êtes pas un candidat sans programme ?
J'ai pas le sentiment qu'En Marche soit une coquille vide. Il y a de nombreux élus qui nous ont rejoints, des maires, des parlementaires. Il y a surtout plus de 84 000 adhérents aujourd'hui qui sont là, qui réfléchissent, qui se sont déployés sur le territoire, qui avancent et qui veulent changer les choses. Simplement, la méthode... qu'on a employé, ce que j'ai réexpliqué hier soir, ça n'est pas en effet avant tout de proposer, d'envoyer au visage des Français les propositions qu'on leur fait, qu'on a sorties de son chapeau, ou des mêmes cénacles que depuis toujours. Vous savez, la France, depuis 30 ans, elle ne manque pas de propositions faites campagne après
Mais
campagne.
Mais vous dites finalement que cette impatience à entendre vos propositions, c'est le symptôme du malaise démocratique aussi ?
Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'une partie du malaise démocratique s'explique par le fait qu'on n'écoute plus non plus la société. Qu'on n'essaie pas de construire davantage avec les gens ce qui est attendu, mais qu'on n'entend pas les symptômes pour remonter aux causes profondes. Et c'est cet exercice que nous avons entrepris il y a plusieurs mois, dont nous avons commencé à restituer les choses hier.
Mais vous avez encore beaucoup répété hier, devant un millier de personnes, donc à Strasbourg, qu'il fallait faire de la politique autrement. Mais du coup, les Français vous attendent au tournant de ces propositions. Vous n'avez pas peur, finalement, de prendre le risque de les décevoir tellement vous mettez en scène votre différence.
Écoutez, d'abord, je n'ai jamais utilisé ce qualificatif qui n'est pas tellement nouveau de faire de la politique autrement. Vous ne m'avez jamais entendu le dire. Ça n'est pas dans ma bouche.
Il faut faire autrement. Il faut faire de la politique autrement.
J'ai expliqué hier, puisque hier soir, j'ai conclu sur la vie engagée. J'ai d'abord montré hier qu'on pouvait sans doute faire différemment, puisque pendant une heure et demie, ici à Strasbourg, c'est une dizaine d'adhérents d'En Marche qui ont expliqué ce qu'ils avaient entendu, les conclusions qui ont été tirées après un très gros travail de cette grande marche.
Fameux diagnostic.
Oui, mais ça veut dire aussi qu'on laisse la parole à d'autres, que ce ne sont pas toujours les mêmes qui articulent les choses. Et puis j'ai essayé de décrire ces symptômes du malaise démocratique français en remontant à trois causes profondes. Nous avons dans notre pays un problème d'adhésion démocratique, de représentativité, un problème de responsabilité politique, mais qui corrompt tout, et puis un problème d'efficacité collective.
Alors, vous avez fait une proposition qui est assez nouvelle, c'est vrai, c'est que le président rende des comptes devant une commission citoyenne chaque année de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. D'abord, vous êtes allé la chercher où, cette idée ? Ça existe quelque part ?
Pierre Rosanvallon, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, propose des choses qui vont dans ce sens. On a aussi entendu, vous avez une forme d'exigence démocratique qui est pleinement légitime de la part de nos concitoyens. Le président de la République, il est responsable devant le peuple. Et il y a une forme d'impératif du court terme absolu, on lui demande de réagir sur tout, d'être présent sur tout, ce qui n'est pas sa fonction institutionnelle et au fond pas son rôle. Il doit s'inscrire dans le long terme. Mais en même temps, considérer que nous restons dans une démocratie de l'autorisation, où on vote et pour 5 ans, on ne se prononce plus, ça n'est plus soutenable dans le monde.
D'où l'idée de ce rendez-vous annuel.
D'où l'idée de ce rendez-vous annuel qui ne renvoie pas derrière à une procédure de destitution du président ou à une sanction, mais qui permet de faire transparence. Je l'ai dit à plusieurs reprises hier, nous avons dans notre pays un manque de clarté des engagements, d'évaluation et de transparence de la procédure démocratique. Par exemple, ça veut dire, c'est la première règle, que... un président de la République s'engage sur une dizaine, une douzaine d'engagements forts, pas plus.
Vous avez dit pas davantage, en effet.
Mais parce que je vous défie de savoir quels sont les engagements clairs aujourd'hui des candidats ou de celles et ceux qui ont précédé, parce que les campagnes sont des successions de réactions.
C'est entendu, ça, Emmanuel Macron. Si François Hollande avait procédé de cette façon-là, par exemple, ça aurait changé quoi à son quinquennat ?
Je pense très profondément que ce qui a pu manquer au quinquennat précédent, au pluriel, c'est une clarté dans l'explication première, dans le temps de campagne, une clarté dans ses engagements et une capacité à créer un consensus, je veux employer un grand mot, idéologique, autour de ceux qui rassemblent les uns et les autres. Pourquoi vous perdez ? Ça a été vrai pour Nicolas Sarkozy, puis pour François Hollande.
Vous me renvoyez effectivement à vos grandes idées, à vos grands concepts, mais encore une fois, cette proposition nouvelle, elle est intéressante. On va s'y arrêter. Qu'est-ce que ça aurait changé dans le quinquennat de François Hollande, qu'il rende compte chaque année, effectivement, de ce qu'il a fait et de ce qu'il n'a pas fait ? Qu'est-ce que ça aurait changé ?
Ça aurait changé dès la campagne. Une vraie discipline dans la clarté des engagements. Et cela aurait permis d'expliquer le fil des choses, le cours, le sens de ce qui est fait et qui n'est pas fait. Mmh. Il y a une demande de transparence et de sens au-delà des actions qui sont conduites. Mmh. Parce que nombre d'actions ont été conduites durant les plus de 4 ans et demi.
C'est un problème d'explication.
Je ne suis pas en train simplement de dire ça. La transparence, ça n'est pas que l'explication. Rendre compte, ce qui est la base de la responsabilité, c'est ça la vie démocratique aussi. Mmh.
Mais sans conséquence, vous l'avez dit, hein, la commission, elle entend le président...
La conséquence, elle est dans le vote ou non. Elle est dans le choix que le président aura à faire dans les prochaines semaines et dans ce que les Français diront. C'est ça la vie démocratique. Par contre, nous avons, vous le voyez bien, des instruments démocratiques qui sont aujourd'hui défaillants. Nous ne sommes, et je l'ai expliqué hier, un pays qui pratique moins l'évaluation, la transparence, la responsabilité politique, y compris parlementaire, que d'autres démocraties. Cela crée une frustration, parfois un doute.
Vous avez parlé de la responsabilité politique et vous avez mesuré vous-même hier que vous avez fait un tabac hier dans la salle quand vous avez montré les crocs sur la probité. Et alors, vous avez dit ceci. Si, lorsqu'on est responsable politique, certaines fautes vous disqualifient définitivement, comme la corruption et la prise illégale d'intérêts. Si on vous comprend, Alain Juppé ne devrait pas être candidat à la présidence de la République.
Je distingue deux choses. Les règles et les pratiques. On parlait des campagnes. Le jeu, c'est de proposer des règles nouvelles, de changer les constitutions, les lois, etc. Ce que j'ai dit hier, c'est que parfois il faut le faire, mais on a le droit aussi d'avoir des pratiques vertueuses dans le champ juridique qui est notre. Aujourd'hui, il est évident que n'importe qui peut commettre des erreurs, des fautes. N'importe qui a le droit d'être racheté, c'est la justice. Mais lorsqu'on se présente aux plus hautes fonctions, il y a en effet certains délits, la corruption, la concussion, la prise illégale d'intérêt, ce qui vient atteindre, au fond, à la bonne administration de l'État, à son autorité, qui justifierait qu'on se pose la question un peu différemment. Donc, et que les pratiques puissent changer.
D'accord. Donc, on va sortir de l'ambiguïté, si vous voulez bien, parce que parfois, c'est vrai qu'on vous qualifie dans votre discours d'un peu ambigu.
Je ne crois pas l'avoir été, ni hier, ni précédemment.
Donc, la conséquence de ce que vous dites, c'est qu'Alain Juppé ne devrait pas être candidat aujourd'hui, et non plus Nicolas Sarkozy, puisque vous estimez que quand on dépasse à ce point les dépenses de campagne, on n'est pas qualifié pour se présenter au pouvoir suprême, qui est une responsabilité considérable.
Écoutez, regardez les démocraties qui sont autour de nous. Est-ce que on est toujours là en train de savoir s'il faut limiter dans la loi, dans la Constitution ou dans quelque autre texte le nombre de mandats et autres, que nous avons un problème de renouvellement démocratique? C'est vrai. Ça doit d'abord passer par un changement des pratiques des partis eux-mêmes. Je l'ai expliqué hier, on pourra y revenir. Mais si nous n'avons pas une discipline collective, un sens de la morale publique,
c'est entendu,
et que chacune et chacun les porte, on aura absolument toujours les mêmes. Et je considère en effet qu'on ne peut pas expliquer aux Français que notre vie publique doit s'améliorer, qu'on leur demande à eux des efforts, que lorsqu'on recrute des fonctionnaires, que lorsqu'on demande à un expert comptable d'être embauché,
Emmanuel,
il y a des conditions et qu'il n'y en aurait aucune pour ce genre d'élection. Mais encore une fois, je ne propose pas de changer les règles, j'appelle chacun à la responsabilité.
On a bien compris. Est-ce que la loyauté est une valeur, Emmanuel Macron?
La loyauté est une valeur,
tout à fait. C'est ce qu'a rappelé Manuel Valls dimanche au Grand Jury sur RTL.
La loyauté...
C'est un reproche quand même qui risque de vous coller, de vous coller à la peau. On a entendu d'ailleurs Alain Juppé et Virginie Calmes, son adjointe à Bordeaux, qui ont entonné ce couplet de la trahison. Ça risque pas quand même de vous poursuivre,
mais
ce problème de loyauté vis-à-vis de François Hollande?
Qu'est-ce que c'est que la loyauté? La loyauté, c'est une fidélité à ses valeurs, à son pays et à ses proches, à celles et ceux qui en tiennent. Qu'est-ce que c'est que ma vie? Est-ce que je suis un politique qui a construit une carrière depuis 30 ans dans le sillage de quelqu'un? Non. J'ai accompagné en 2011, même avant, François Hollande et j'en suis fier. Il m'a confié des responsabilités qui m'ont conduit à faire des choix professionnels, personnels pour le suivre, puis à quitter l'Élysée. Lorsque j'ai été appelé ministre, il y a un peu plus de 2 ans, avec beaucoup d'honneur, j'ai servi. Mais je l'ai fait en étant très clair sur mes idées, mes objectifs, ma volonté de réformer.
Donc
je
n'ai pas été absolument choisi.
Je suis responsable et conséquent.
Ouais.
Et donc, on ne peut pas prétendre être loyal en considérant qu'on appartient à un clan, qu'on est dans une fidélité vassalique. On est d'abord loyal quand on est conforme à ses engagements, à ses idées, à ce qu'on croit bon pour le pays. Et je vais finir là-dessus. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, on avait beaucoup reproché ça à Nicolas Sarkozy. Mais il avait quitté Jacques Chirac pour alors un Premier ministre plus haut dans les sondages. J'ai pris mes responsabilités en quittant un poste ministériel, le gouvernement. Pourquoi ? Ouais. Pour prendre mon propre risque, pour prendre mes responsabilités.
Emmanuel Macron, alors que on sent que ça vous inquiète quand même ce reproche, ça vous met en colère
parce que c'est le reproche d'un système qui s'organise lui-même, déploie ses propres anticorps et en quelque sorte considère que les nouveaux entrants n'ont pas de place, qu'il ne faut pas les déranger.
Quelles sont vos relations aujourd'hui avec François Hollande, votre ancien mentor ?
Vous savez, les relations personnelles relève du champ personnel.
Vous avez encore des contacts ?
Je ne fais pas partie de celles et ceux
pour
qui considèrent
a échoué,
que
le retour n'est pas un droit.
On doit tout dire aux journalistes, que ce soit devant un micro ou derrière un micro.
Pour qui a échoué, le retour n'est pas un droit. C'était pour lui ? C'était pour le président sortant ?
Vous m'avez entendu hier et vous avez entendu le contexte dans lequel je l'ai dit ? Non.
Alstom ?
Parce que c'est un droit. Revenir quand on a échoué, quand on a été dans le champ politique, là aussi, c'est une forme de discipline. Lorsqu'on est en charge, on a tout à fait le droit de se représenter. C'est la vraie sanction démocratique. Donc ça n'était pas adressé au président de la République.
Un petit mot d'Alstom. Vous avez été ministre de l'économie. Vous connaissez ce dossier. La solution présentée hier par le gouvernement, est-ce que c'est du colmatage ? Est-ce que vous auriez procédé de la même façon ? C'est-à-dire l'État qui rachète 15 TGV pour sauver le site ?
Là aussi, l'esprit de décence fait qu'on ne commande pas ce que ses successeurs font sur ce sujet. C'est une solution de court terme. Je l'ai toujours dit. La solution pour Alstom, la vraie, c'est la compétitivité, l'innovation et les commandes à l'export.
On en reparlera sans doute avec les auditeurs, ou peut-être, en tout cas c'est vous Yves Calvi qui prenez la main tout à l'heure à 8h20. Merci Emmanuel Macron.
Une solution de court terme concernant le dossier Alstom, vient de nous dire l'ancien ministre de l'économie. Merci bien entendu de rester avec nous Emmanuel Macron, puisque vous dialoguez avec nos auditeurs au 3210 dès 8h20.